Tournez maintenant l'hall, bienvenue à tous, voici le petit journal du festival, dernier du nom pour cette édition 2019 du Festival Interceltique de Lorient, 49e édition. Et ce petit journal va nous permettre de revenir sur le bilan de cette édition qui précède la 50e, celle de 2020. Lizardo Lombardia, directeur du FIL, nous présente cette édition qui a été un véritable succès. Lizardo, un grand bilan plutôt de ce festival Cuvée 2019 avec beaucoup de salles pleines.
Oui, on a fait beaucoup de salles pleines et nous sommes très contents parce que c'est la première fois que ça passe. Mais le plus important, c'est que bon, là, nous atteignons les objectifs que nous avons mis au point de vue des résultats financiers qui nous permettront de continuer. Mais surtout, nous avons eu une grosse fréquentation dans les salles. Et en concret, on a fait complet Cotriade, Soldat Lune, Le Roi, Pascal Diagouen, les deux séances, Oran Bregovic, Carlos Núñez, très très complète, presque complète le concert d'ouverture de la Galice, et aussi bien rempli Cécile Corbel, le renfait sur la guitare celtique, la même grande parade, des nuits interceltiques bien remplies. C'est une très belle édition en fréquentation, avec plus de 70 000 entrées payantes, et avec un concert que je suis ravi qui a pris, c'est le Celtic Electro, 1600 personnes là, c'est bien, et donc 83 000 badges, donc voilà, tous les syndicateurs...
C'est pas fini,
tous les syndicateurs sont très bons.
Un pic historique par rapport à 2010, au niveau de la fréquentation des festivaliers?
Oui, nous sommes le deuxième, on peut dire, en 2010, nous avions eu, c'était l'année de la Bretagne à l'époque, nous avions eu 800 000 personnes. Nous approchons ces pics, au-dessus des 750 000.
Le village celte a bien été fréquenté aussi?
Très bien fréquenté, les gens satisfaits des services, avec des animations dans les pré-stades par exemple, l'apéro chanté qui est confirmé pour les gens, alors très 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 bien. Et autrement, bon, en ville aussi, il était vendu du public honnêtement. Hier soir, tu avais du mal à te déplacer.
Et les nuits interceltiques ont bien marché avec justement le fameux Havel à Arvoustouer.
A très bien marché, exactement. C'est la composition des Étienne Soucier avec la voix des Rosenthalec et d'autres intervenants en breton, dont la langue breton mise en valeur. Et donc je crois que c'est un succès et c'est qui va continuer à vivre.
Alors les médias ont bien suivi, comme France 3 entre autres, avec une nuit qui arrive bientôt sur la télé. Hein.
Oui, France 3, ils font toujours la captation de la part. La part, c'est 1 400 000 spectateurs, donc une part de 15,6% des quotas de suivi d'écran, alors c'est bien. Et les 14 août à 21h, nous aurons là l'émission de la nuit interceltique, effectivement.
Une captation qui a lieu mercredi, je crois, c'est ça?
Mardi et mercredi, deux jours, oui.
Les réseaux sociaux ont été également présents, ça veut dire que ça rajeunit.
Les réseaux sociaux très très suivis, notre public d'après les sondages que nous avons, c'est entre la tranche des 25-34 ans, ce qui a été renforcé, ça montre que les renouveaux, l'arrivée de nouveaux publics, etc., c'est véritablement un fait. C'est le résultat de beaucoup d'années de travail dans ce sens-là.
En revenant à la télévision, les Gallois, les Galiciens étaient présents et vont être encore présents.
Encore présents, oui. Il y avait eu des émissions à RTV, à l'RTPA, aussi les Gallois qui sont déjà fidèles au fil depuis 4 ans avec S4C. Et donc, véritablement, il y a un bon suivi international et ça nous réjouit.
Alors la suite, c'est le 50e et c'est 50 ans en 2021. Faut pas se tromper. Hein.
Non, exactement. Oui, la 50e édition, c'est 2020. Tout le monde dira, j'ai laissé 50 ans, mais bon, les 50 naturels, c'est 2021. Évidemment, nous ne nous arrêtons pas là. C'est-à-dire qu'il y a 2020 avec notre 50e édition et après la continuité. J'ai aussi quelques idées d'avenir, mais c'est une question qui doit être reposée à l'automne, à la rentrée.
Il y a des pistes pour plus loin encore? Le festival, c'est pas que 2020 et 2021, c'est 2022, 23, 24, 25.
Il y en a des pistes, mais ce sont des pistes à réfléchir et à concrétiser.
Toi, tu seras toujours là?
Bon, pour l'instant, je suis là. On verra. On ne sait jamais dans la vie.
Alors, en revenant à 2020, des créations sont en cours?
Il y a au moins deux qui sont déjà très solides, qui avancent bien, et des grandes créations, mais il y a beaucoup d'autres choses qui viendront. Nous travaillons à ce moment-là.
Sans les données, il y a déjà des groupes qui ont pris contact ou qui sont déjà en contact?
C'est nous qui prospectons. En priorité. Pour l'instant, c'est un peu prématuré parce que les gens doivent savoir, je dis chaque fois, mais bon, on doit le répéter. Le mois d'août, pour la plupart des grands tourneurs, des artistes qui pourraient nous convenir, il y a beaucoup qui ne travaillent pas.
Les vieilles charrues ont des fois des demandes de certains groupes. Est-ce que le festival, ça peut arriver que le festival ait des demandes de groupes ou de grandes stars qui veulent venir?
Pas couramment, de temps en temps, oui. hein, mais pas couramment. Et surtout, beaucoup de ces demandes sont des demandes plus généralistes, pas du tout ciblées sur notre propre esthétique. C'est ça, c'est difficile pour eux aussi, pour les rentourneurs. Les rentourneurs sont axés sur les business classiques, hein, pop rock, etc. Donc parfois, ils peuvent avoir des choses qui nous conviennent, mais pas pour l'instant. C'est nous que nous approchons et que de plus en plus nous avons des légitimités à ça.
Est-ce qu'on peut dire que le badge va rester au même prix ?
Pour l'instant, oui.
C'est moins cher qu'un Festos, comme on dit.
Certainement.
Moins cher. C'est sur 10 jours.
Et voilà. Et même un peu moins cher qu'une pente pendant les fils.
Bon, on rappelle les dates de ce 50e festival, l'année de la Bretagne.
Ça sera des 7 au 16.
Évidemment, on va se revoir prochainement pour le Festnos de Noël, hein. C'est sûr, ça continue, l'affiche en janvier.
Voilà, Festnos de Noël et présentation de la programmation et quelques activités aussi, je crois qu'on va commencer à faire le long de l'année. Mais c'est prématuré d'y parler, nous ferons après.
Parce que le festival, ça vit toute l'année, il faut le dire ça.
Exactement. Nous vivons toute l'année, nous travaillons tous ensemble toute l'année, l'équipe des salariés mais aussi les bénévoles. Et après, il y a énormément de travail qui s'est fait en amont et que nous sommes là pour ça.
Toujours motivé, Lizardo ?
Toujours motivé. Si je n'étais pas motivé, je me barrais.
Canavo, Lizardo. Et comme on dit, Calonvat. Bon courage.
Merci beaucoup. Calonvat et Aréchal.
C'était Lizardo Lombardia, directeur du Festival Interceltique de Lorient. Place maintenant au président du festival, nouveau président en date, c'est Jean Peters qu'on va retrouver. Et lui nous parle de sa nouvelle fonction puisqu'il a été élu récemment. Jean Peters, nouveau président. Alors, président, comme le disait un de mes confrères de la presse écrite, très occupé.
Oui, très occupé pendant le festival, mais tous les bénévoles sont très occupés pendant le festival. Oui, en effet, ouais. C'est une activité prenante, sachant encore une fois que ce qui est important pendant le festival, c'est surtout les spectacles, l'édition du festival. Et donc, le président, il fait autre chose pendant le festival.
Alors pour le moment, c'est l'UBS, l'Université de Bretagne Sud, et le festival. C'est pas dur au niveau du planning, ça doit être le jonglage un peu, mais ça va pas durer.
Alors, au mois d'août, ça va, puisque de toute façon, ça fait 35 ans que je suis, 36 ans que je suis au festival. J'ai toujours fait le festival les dernières années tout en étant président de l'Université de Bretagne Sud, et c'est vrai qu'après, sur les quelques mois qui restent, va y avoir un peu plus d'activité, mais en même temps, sur l'université, je suis sur une fin de mandat. Il y a quand même des gros dossiers qu'il va falloir suivre. Mais je ne vais pas être en campagne pour l'université et je ne vais pas lancer maintenant des gros dossiers à l'université qui me demanderaient une énergie importante et beaucoup de temps.
C'est vrai que le président n'est pas un novice ici au festival, ça c'est vrai.
Oui, c'est vrai, c'est pas un novice, non. Il n'est plus très jeune non plus, mais il n'est pas trop vieux encore.
1700 bénévoles, il faut les gérer, on va les voir.
Oui, alors 1700 bénévoles, alors je ne les vois pas tous, mais bon, on a quand même une organisation, comme c'est une entreprise culturelle, hein, le festival, donc il y a différents services, il y a des responsables de services, donc j'essaie de voir, en effet, je suis allé à plusieurs réunions de responsables, donc je suis allé à des réunions du contrôle pour les quais, pour le stade, pour la mise en place, des interprètes, de l'accueil, donc j'ai fait, voilà, plus d'autres, j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup vu de personnes, mais j'en ai pas vu 1700, c'est vraiment impossible.
Il y a un côté social dans le bénévolat.
Ah bah c'est sûr, on fait pas de bénévolat si on n'y croit pas. Rien ne vous empêche de partir du jour au lendemain, voilà. Et personne ne vous demande non plus de vous oblige à venir. Donc il y a vraiment un côté social, parce qu'en plus, toutes les classes sociales se mélangent. Et la magie, une des magies du festival, à chaque fois je dis la magie du festival quand je parle de plein de choses, mais la magie du festival, c'est qu'on ne vous demande pas ce que vous faites dans la vie de tous les jours, quoi. On vous demande, dans le rôle que vous avez, de remplir bien ce rôle et avec le sourire.
Ça pourrait évoluer encore. Je crois que les vieilles charrues, c'est plus de 7000 bénévoles. Bon, c'est pas le même fonctionnement,
non,
évidemment.
C'est...
Mais ça pourrait évoluer. On est à 1700. Ça pourrait évoluer jusqu'à peut-être 1008, 2000.
Je sais pas. Je pense qu'on a atteint aussi un maximum parce que c'est, en gros, c'est 1700 bénévoles, mais sur 10 jours, quoi. Les vieilles charrues, c'est quand même 3 jours.
Donc, 4 ans, quoi, ça.
Ouais, donc voilà, c'est quand même très très long, quoi. Non, on voit qu'on atteint des limites. Hein. Il s'agit pas de savoir si on met plus loin. On atteint des limites. Et puis, c'est quand même très long, très fatigant, quoi.
Alors il y a le côté social, mais il y a le côté business. N'oublions pas que l'argent, entre guillemets, c'est le nerf de la guerre.
Oui, dans tout. Enfin, c'est le nerf de la guerre. C'est pas l'essentiel, mais c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en effet, pour que le festival puisse vivre, il a besoin d'argent. Mais comme l'art, comme le allemand, comme la science.
C'est logique.
Bah oui, c'est logique. Donc évidemment, cette part-là, elle est importante. Et donc à chaque fois que le festival peut avoir des ressources supplémentaires, il faut qu'il explore ses possibilités, oui.
Donc il y a peut-être des aides supplémentaires pour le 50e. Ça pourrait se faire avec, entre autres, la région, peut-être l'État,
la région nous
ou des entreprises.
Oui, la région nous dit aujourd'hui, en effet, qu'elle est intéressée par... pour faire un peu plus pour le 50e. Donc à l'ATON aussi des projets, donc on va voir ça à l'automne. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui auront envie d'être associées au festival pour la 50e édition année de la Bretagne, en effet.
Et pour plus tard, peut-être des pays celtiques qui pourraient s'investir un peu plus, peut-être au niveau mécénat.
Je pensais à Hong Kong et Singapour. Je plaisante évidemment pour les auditeurs. On va voir, ça c'est vraiment une discussion à voir, mais c'est une discussion à voir avec le directeur quand même. C'est est-ce qu'on veut ouvrir encore plus le festival à d'autres pays ou régions? Moi j'ai des idées, hein. Mais j'en discuterai avec le directeur.
On parle de la maison de l'interceltisme, ça pourrait un jour venir peut-être? C'est dans les tuyaux?
Oui, on en parle depuis quelques temps, cette maison de l'interceltique. Le constat, c'est que les bénévoles n'ont pas de lieu où se réunir pendant l'année, que le festival a une activité qui est concentrée, hein, sur 10 jours et sur le reste de l'année, si on a un ou deux fechnoz, quand même, quoi. Et puis, c'est surtout qu'il n'est pas visible à Lorient, quoi. Et on a 800 000 visiteurs. Sur les réseaux sociaux, on a une visibilité incroyable. On a une couverture presse qui est énorme. Et quand on arrive à Lorient, bon, on a la chance maintenant, sur la pénétrante, d'avoir un panneau qui dit que c'est la capitale de l'intercédic. Puis on arrive à Lorient, on cherche, on a du mal à trouver. Et finalement, on va trouver d'entrée de bureaux, etc. Donc, on a de la chance quand même d'avoir des bureaux qui nous permettent de travailler grâce à la ville de Lorient. Mais en termes de visibilité, là, c'est pas une difficulté, c'est que la visibilité est vraiment sans commune mesure avec ce qu'apporte le festival. Et donc, il faut trouver quelque chose.
La visibilité, ça pourrait être aussi une plus grande com' dans les pays celtiques, ou même pas forcément celtes comme les Allemands?
Oui, alors la communication, elle est déjà très très importante. Après, comment est-ce qu'on peut faire plus, mieux? Mais elle est déjà vraiment très 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 importante. On voit bien que le concept de l'année 2, l'année de la Galice comme aujourd'hui, eh ben ça rend bien plus visible ce pays ou cette région en France. Donc c'est vraiment une vitrine. L'inverse est différent. C'est pas le festival qui va aller faire la pub de la Bretagne à l'extérieur ou de l'Orient. Alors il peut le faire, bien sûr, si on lui demande. Mais cette activité-là, c'est pas lui qui peut la faire. C'est pas les festivals dans les pays avec qui on travaille qui font la pub du pays. Ce sont les gouvernements. Donc s'il y a une publicité qui doit être faite à l'étranger, elle viendra des décideurs qui sont des décideurs soit politiques, soit économiques, quoi.
L'aventure continue, on est parti sur une grande aventure, parce que ça, c'est après, hein, 2021, 2022, 23, 24.
Ouais, je pense qu'il y aura 25, 26, 27, 28, 29, 30, voilà. Oui, oui, si j'ai été élu président, c'est pas pour arrêter en 2020 et dire c'est fini, on ferme boutique. Non, je pense que ce festival a vraiment de belles années devant lui. Je pense que, évidemment, la population change, les moyens de concevoir la culture et de consommer la culture changent aussi. Et puis, il y a des nouveaux acteurs qui émergent, il y a aussi des modes. Voilà, ce festival devra sans cesse s'adapter et aussi innover et anticiper. Donc, moi, je suis plutôt content d'être dans une aventure comme ça.
Suite aux prochaines aventures, parce que le festival, c'est toute l'année.
Oui, c'est toute l'année. Le président du festival, lui, c'est toute l'année, en effet, quoi.
On dit Canavo, Calanvat, comme on a dit à Lizardo, ça veut dire à bientôt. Et bon courage.
Ouais, moi, Kenavo et Betac, tu chantes.
C'était le petit journal du festival. Présentation, réalisation, Stéphane Coyotte-Blesprat. Édition 2019, dernier journal. On se retrouve pour de nouvelles aventures avec l'émission Celte Armorique, mais on aura l'occasion de revenir sur le festival 2020, qui aura lieu du 7 au 16 août. 50e édition et les 50 ans en 2021. On va remercier les radios qui diffusent ce petit journal. www.festival-interceltique.bzh pour en savoir plus. L'été continue, d'autres festivals prennent le relais comme le Motoculteur Festival du côté de Saint-Nolf sur le Pays de Vannes. Vous avez également le Festival des Galettes du Monde à Sainte-Anne-d'Auray. Et on n'oublie pas l'excellent festival Les Filets Bleus du côté de Concarneau, sans oublier le Fizel à Rostronin ou la Saint-Loup du côté de Guingamp. Canavo, à Véchal, à bientôt, salut!